France Info.
Et bienvenue dans Les Informés, c'est parti pour une demi-heure de décryptage, comme toujours avec Renaud Dely. Bonjour Renaud.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Info TV. L'interview politique tous les matins à 7h45. Bonjour Alix.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
François-Xavier Bourmeau, journaliste politique à l'Opinion. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Agathe.
Et Nicolas Taillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Bonjour Nicolas.
Et bonjour.
Est-ce une reconnaissance déclarative ou aura-t-elle des conséquences concrètes sur le terrain? Quels incidences en France? Mais d'abord, Renaud, avant de se poser ces questions, on parle d'un discours pour l'histoire.
Un discours historique, en effet, hier à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, il était 21h, heure française, lorsqu'Emmanuel Macron est monté à la tribune, il a prononcé une allocution d'un peu plus de 20 minutes pour reconnaître officiellement l'État de Palestine, comme il l'avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines, le chef de l'État.
Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem.
Et on l'a entendu avec cet extrait, Emmanuel Macron qui lie étroitement la reconnaissance de l'État de Palestine, évidemment à la garantie de sécurité pour l'existence de l'État d'Israël. C'est donc la fameuse solution à deux États qu'il met en avant, en soulignant un caractère d'urgence à ses yeux. Si le temps est venu, comme le dit le chef de l'État, c'est aussi que c'est en quelque sorte la dernière chance, selon lui, de retrouver le chemin de la paix. Et cette reconnaissance de l'État de Palestine, selon Emmanuel Macron, doit justement participer de la construction de cette paix et de cette solution à deux États. Maintenant, quelles seront les conséquences concrètes, y compris dans les jours ou dans les heures qui viennent? On sait que Israël, par la voix de Benjamin Netanyahou, a manifesté toute son hostilité à cette initiative française.
Un discours et après, Nicolas Taillard, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui.
Alors, il y a le « et après » et puis il y a le « et maintenant ». Qui est sans doute la plus grosse urgence, parce que là, on se projette évidemment dans un futur qui est très hypothétique, avec la déclaration d'Emmanuel Macron et avec tous les souhaits qui accompagnent cette déclaration, tous les projets qui pourraient voir le jour en cas de cessez-le-feu. Mais la réalité, ce matin, ce sont des chars dans les rues de Gaza, des familles qui ont passé la nuit parfois à fuir leurs habitations, et une guerre qui continue. Or, la déclaration d'hier, elle ne change rien pour le moment à la réalité de cette guerre. Et on a bien du mal à voir quel levier il est possible d'activer aujourd'hui pour une situation dont l'urgence a pourtant conduit à faire ce choix du côté d'Emmanuel Macron, alors que la logique des deux États, elle obéit à une tradition française depuis un demi-siècle.
François-Xavier Bourmeau, pour une fois, Emmanuel Macron a fait un discours plutôt concis, pas trop lyrique, un discours qu'il voulait prononcer pour l'histoire.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un discours qui prononce pour l'histoire avec un grand H, qui lui permet de s'extirper du marigot de la scène nationale dans lequel il s'est englué après la dissolution. C'est un discours qui lui permet aussi de commencer à bâtir son héritage. On voit aujourd'hui que le bilan de ses 8 ans à la tête de l'État est contesté par les oppositions. C'est une façon de laisser une trace. Souvent, ce discours est comparé à celui de... est mis en parallèle avec celui de Dominique de Villepin à la même tribune de l'ONU pour dénoncer la volonté des États-Unis d'entrer en guerre en Irak. Il faut rappeler que le discours de Dominique de Villepin n'avait pas empêché les États-Unis d'entrer en guerre en Irak. Donc effectivement, c'est un discours déclaratoire qui vise à poser un jalon à un moment où effectivement Emmanuel Macron le reconnaît lui-même. Il y avait le risque que ce soit trop tôt ou trop tard. Trop tôt parce que effectivement, c'est reconnaître que les événements du 7 octobre ont débouché sur cette reconnaissance d'un État palestinien. Trop tard, parce que Israël est engagé dans une colonisation de la Cisjordanie. Donc entre les deux, il fallait bien trancher. Emmanuel Macron choisit ce moment-là, maintenant, parce que l'occasion s'en présente à la tribune de l'ONU. Mais les conséquences, dans l'immédiat, on les verra pas. En revanche, à long terme, c'est ce qui s'écrira plus tard, mais c'est impossible de prédire ce qui va se passer.
Alix Bouillaguet.
Il fait, on va dire, un triple pari. Le premier pari, c'était de dire qu'il fallait absolument relancer rapidement une perspective de paix avec cette fameuse solution à deux États. C'est ce qu'il justifie en premier. Il dit qu'il y avait une urgence à agir parce qu'on voit que cette perspective-là, cette solution-là, elle est peut-être en train de vaciller. Pourquoi ? Parce que Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, n'en veut pas. On voit qu'il accélère la colonisation en Cisjordanie et le Hamas n'en veut pas non plus. D'où l'idée de mettre ce petit coup de pression. Le deuxième point, c'est aussi de créer une forme de dynamique politique dans le contrat, entre guillemets. L'autorité palestinienne s'engage à organiser des élections dans un an. Donc ça veut dire amorcer un début de gouvernance. Et puis, c'est le bouger politique, il n'est pas que sur l'autorité palestinienne, il est aussi sur ce qui peut se passer en Israël. On sait qu'il y a des élections qui sont prévues dans un an, en octobre 2026, pour Benjamin Netanyahou, peut-être même avant, étant donné la fragilité de sa coalition. Donc tout ça, ça peut offrir un horizon politique. Et puis, le troisième point, c'était aussi impliquer les pays arabes, les mettre aussi devant ce pas, cette avancée. On sait que l'Arabie saoudite a co-organisé ce sommet, même si effectivement il y a eu des petits couacs, ils s'étaient engagés à reconnaître l'État d'Israël en échange, ça n'a pas été fait, il devait être présent, ça n'a pas été le cas.
Mais
ça crée quand même une dynamique dans un moment où après 70 ans de guerre, on peut se dire que finalement il n'y a jamais de bon moment pour faire ce genre de pas.
Juste un mot pour revenir un instant sur le discours d'Emmanuel Macron, il y avait évidemment une dimension pédagogique extrêmement, il a insisté sur cette dimension-là, à l'attention d'Israël, des Israéliens, en rappelant le soutien d'effectifs de la France à l'État d'Israël, y compris d'ailleurs pour l'aider à se protéger des frappes iraniennes récentes, en citant Yitzhak Rabin, en insistant sur les garanties de sécurité que doit absolument obtenir Israël. Donc il y avait ce souci de la part d'Emmanuel Macron, d'une part, et puis d'autre part, là aussi en termes de pédagogie, sur le plan historique, il est revenu d'ailleurs à 1948 et au fait que dans cette assemblée, a-t-il dit, en évoquant l'Assemblée générale de l'ONU, eh bien dans cette instance, on avait acté officiellement l'existence de deux États. Donc c'était bien aussi pour rappeler que là, il y a un engagement historique. Maintenant, pour revenir à la question que posait Nicolas Taillard, Et maintenant, quelles conséquences? Et il n'y en a pas de fait sur le terrain aujourd'hui. Ça renvoie immédiatement à la réaction et à ce que sera l'attitude, la réaction, la politique américaine dans les semaines à venir. Parce que la France ne peut pas, quoi qu'on en dise, stopper la guerre à Gaza et empêcher Benjamin Netanyahou, pardon, de continuer son offensive, ses bombardements. La France peut prendre des sanctions, certes, qu'elle n'a pas prises. La France peut décider telle ou telle chose. Mais on sait très bien que la poursuite de la guerre, elle ne dépend que de la volonté ou pas de Donald Trump. Même si l'Union européenne, tant que les États-Unis semblent accorder leur blanc-seing à Israël, Benjamin Netanyahou pourra continuer cette guerre aussi longtemps qu'il le souhaitera.
Nicolas Théa.
L'exercice de pédagogie, il est là, mais moi je l'ai trouvé quand même teinté d'un profond inconfort qui a marqué l'ensemble de sa prise de parole et de son discours, parce que déjà c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron a beaucoup tergiversé, évolué depuis son arrivée au pouvoir, y compris au cours des derniers mois, et on se souvient que cette conférence, elle était prévue pour avoir lieu mi-juin, et que l'offensive israélienne sur l'Iran a provoqué une pause, et qu'on a finalement repoussé ce moment-là à l'Assemblée générale et au mois de septembre. Un confort face à un calendrier qu'il n'a pas choisi. On sent que c'est l'urgence des événements, de la guerre à Gaza, de la réaction des opinions publiques et de l'avancée de la colonisation qui provoque ça, et pas forcément l'aboutissement d'une réflexion et d'une tradition française sur la solution à deux États. Et puis un confort face à des interlocuteurs qui n'existent pas. Aujourd'hui, du côté palestinien, il y a une autorité palestinienne qui est extrêmement fragile et qui n'a pas de poids dans la bande de Gaza. De l'autre, un gouvernement israélien qui est totalement sourd à tous les appels des Européens et de l'Élysée depuis bientôt deux ans. Donc il y a cette difficulté-là quand même.
C'est clair que cette reconnaissance ne va pas arrêter la guerre, ne va pas arrêter les massacres à Gaza, mais il y a un début de quelque chose, même si, effectivement, on est vite rattrapé, vous le dites, par une forme de principe de réalité. Il y a une convention, je ne sais pas si vous la connaissez, la convention Montevideo, qui a été signée en décembre 1933, qui établit les critères des droits, enfin, à l'existence d'un État. Et c'est vrai que quand on se penche sur ces critères, on voit à quel point, c'est vrai que pour la Palestine, ça va être compliqué. Il faut une population établie. Il faut une aptitude à établir des relations avec des autres États. Il faut un territoire défini. Et puis, il faut un gouvernement fonctionnel. Donc, effectivement, on peut dire que l'autorité palestinienne, à ce stade, coche peut-être deux items. Mais on voit, voilà, toute l'ampleur, quand même, du chemin qui reste encore à faire.
Et à court terme, c'est surtout Israël qui menace de représailles et qui oui. menace d'aller encore plus loin dans sa fuite en avant.
Ce qui est assez attendu, Benjamin Netanyahu a dit clairement qu'il ne voulait pas d'État palestinien, il accède à la colonisation de la Cisjordanie, donc la position de Benjamin Netanyahu, elle ne va pas changer dans les heures qui viennent. C'est pour ça que je renvoie à nouveau, la France a lancé une initiative diplomatique, pas seule d'ailleurs, elle a réussi à entraîner avec elle un certain nombre de pays, dont deux membres du G7, le Royaume-Uni et le Canada, donc c'est important. Mais maintenant, la balle n'est plus dans le camp de la France. Pour passer aux choses concrètes, d'une part, elle est dans le camp américain pour tordre le bras ou pas à Benjamin Netanyahu. C'est Donald Trump qui peut ou pas influer sur la politique de Benjamin Netanyahu. Pardon. Et de l'autre côté, elle est dans le camp des pays arabes. C'est à eux, justement, de jouer un rôle. Ils ont pris un certain nombre d'engagements, y compris dans cette annonce, pour de jouer un rôle dans le transfert du pouvoir à une autorité palestinienne qui serait renforcée, renouvelée, dans le désarmement du Hamas. Je propose d'ailleurs d'écouter celui qui était votre invité il y a quelques minutes, Gérard Haro, l'ancien ambassadeur de France en Israël, puis aux États-Unis d'ailleurs, qui réagissait au fait que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, demande justement au Hamas de rendre les armes.
Il n'y a pas que Mahmoud Abbas. Hein. Vous avez l'ensemble des pays arabes, et l'ensemble des pays arabes qui disent, dans le cadre de la Ligue arabe, qui disent qu'ils sont prêts à participer à la gouvernance de la provisoire temporaire de la bande de Gaza. C'est un message fort.
Les pays arabes sont aussi au cœur de l'avenir de la bande de Gaza, Nicolas Théa. Emmanuel Macron a notamment dit hier que les accords d'Abraham, donc entre Israël et les Émirats, et de Camp David entre Israël et l'Égypte, étaient menacés. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il y a des appels qui ont eu lieu ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment de la part de l'Égypte et des dirigeants des Émirats arabes unis, pour prévenir la Maison-Blanche, en partie, et l'Élysée aussi, qu'une poursuite de la guerre à Gaza, mais aussi de la colonisation, pouvait remettre en cause ces différents accords. Alors, j'allais dire, les accords d'Abraham, on s'y attendait un peu, et on est dans quelque chose de très récent. Je trouve que c'est plus significatif de parler des accords de Camp David. Les accords de Camp David, on va remettre simplement un peu de concept. Ce concept, on est à la fin des années 70, et l'Égypte est le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël et à s'engager dans un processus de paix. La problématique de l'Égypte aujourd'hui, c'est qu'elle a déjà une problématique djihadiste dans la région du Sinaï, qui est à la frontière de Gaza, et qu'elle voit le gouvernement israélien qui pousse toute la population de la bande de Gaza vers le sud, et qu'elle ne redoute qu'une chose, c'est de voir cette population finir par passer la frontière et de voir des éléments du Hamas, c'est-à-dire alliés aux frères musulmans que le président Sisi a chassé du pouvoir il y a quelques années, arriver sur son territoire. Et de ce point de vue-là, il y a une profonde inquiétude en Égypte de voir cette situation dégénérer, de la même manière que c'est pas un hasard si les Émirats, qui sont hostiles au Hamas également, qui sont hébergés chez l'ennemi qatari, qui est un voisin, s'inquiétait profondément. Donc il y a aussi une dynamique régionale, et ça a sans doute beaucoup plus de poids dans le rapport à ce que peut faire la Maison-Blanche qu'une éventuelle inquiétude plus philosophique de Donald Trump pour l'avenir d'un État palestinien et de l'avancée de la colonisation israélienne.
Dans un instant, ce premier pas est-il un succès diplomatique pour Emmanuel Macron ? Quelles conséquences en France ? Mais tout de suite, il est 9h19 et c'est l'info en une minute avec Jeanne Mézières.
À cause d'un marché difficile en Europe, l'usine Stellantis de Poissy dans les Yvelines à l'arrêt pendant 3 semaines le mois prochain. Les 2000 salariés seront mis au chômage partiel ou en congé, annonce le groupe. L'usine de montage automobile doit ralentir sa production. À Lyon, le procès du maire de Saint-Étienne se poursuit. Hier, deux hommes ont reconnu avoir piégé avec une vidéo intime l'ancien premier adjoint de Gaël Perdriot et ont accusé le maire, toujours en poste, d'avoir passé commande. 6 personnes sont en détention provisoire pour avoir volé du cuivre en région parisienne à la SNCF. Les suspects officiaient depuis 2014, affirme le parquet d'Evry, pour un préjudice total de 2 millions d'euros. Cela faisait 14 ans que ce n'était pas arrivé. Au Vélodrome, l'Olympique de Marseille a battu le Paris Saint-Germain hier soir 1-0 en Ligue 1 de football. Pas de quoi cependant faire passer une mauvaise soirée au PSG avec le sacre d'Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d'Or.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informer avec Alix Bouyaguet, éditorialiste politique à France Info TV, François-Xavier Bourmeau, journaliste politique à l'Opinion, Nicolas Théillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, bien sûr avec Renaud Dely. Alix Bouyaguet, hier Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a appelé le Hamas à rendre les armes. Est-ce que cela pèse quelque chose ou aujourd'hui ça ne compte pas?
On va dire que c'est quand même un minimum. En tout cas, c'était dans la corbeille des tractations qui ont lieu entre l'Élysée et l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne s'est engagée à un volet de choses. Effectivement, cet appel au désarmement du Hamas le fait naturellement, ça va sans dire, de condamner les événements du 7 octobre. L'éviction aussi, parce qu'on parle de ce qui peut se passer après, il y aura des élections dans un an, l'éviction du Hamas d'un futur gouvernement, et puis je veux dire, l'autodissolution de Mahmoud Abbas lui-même qui s'engage, il a 89 ans, il est effectivement décrédibilisé, il est très faible, il y a de la corruption, donc il s'engage lui quasiment à partir en retraite d'ici un an. Et c'est vrai que ça, c'est vrai qu'il y a eu le changement de pied du côté d'Élysée, c'est-à-dire que normalement il devait y avoir ce démantèlement du Hamas et la libération des otages, c'était des prérequis. Et puis, avant l'été, on s'était plutôt engagé à ça, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a fait ce changement de pied, sans doute aussi par pragmatisme politique, et qu'effectivement, ces conditions préalables sont devenues des conditions a posteriori, c'est-à-dire, en clair, libération des otages, sinon la France n'ouvrira pas d'ambassade
à Ramallah.
En France, à Ramallah. Enfin, on ne sait pas où.
Et toute la difficulté, c'est que dans la foulée du 7 octobre, on ne perçoit plus que du Hamas que l'aspect terroriste, mais c'est qu'il fait partie aussi d'un paysage politique. Alors, je ne sais pas si on peut comparer ça au Hezbollah dans le Liban voisin, mais il y a une dimension politique aussi chez le Hamas, qui était un parti nationaliste qui s'est monté de ce point de vue-là, qui a compté dans la population palestinienne et qu'il est difficile d'écarter totalement dans la composante générale de la population palestinienne, d'autant qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 20 ans, qu'on se demande bien comment elle pourrait être organisée. Et qui pose la question de Jérusalem. C'est pas par hasard qu'Emmanuel Macron a cité le mot de Jérusalem hier dans son discours. Il y a des Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est. Est-ce qu'ils auraient le droit de voter? Est-ce que le gouvernement israélien laisserait des habitants de Jérusalem-Est voter lors d'une élection pour l'autorité palestinienne? Tout ça, c'est extrêmement difficile d'y répondre aujourd'hui. Et encore une fois, ça répond à une réalité qui est encore très illusoire aujourd'hui au vu de ce qu'est le quotidien ce matin de bon nombre de Palestiniens à Gaza.
Avec une autorité palestinienne fantoche aujourd'hui, il faut le dire. Je veux dire, Mahmoud Abbas, vous évoquiez la corruption, 89 ans, 20 ans sans élection, comme le disait à l'instant Nicolas Taillard. Donc toute la difficulté, c'est toujours de faire émerger une alternative politique crédible et qui ne soit pas un mouvement terroriste au Hamas.
Et qui n'a pas obtenu d'accréditation pour se rendre à New York. À l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Amérique de Donald Trump n'a pas laissé Mahmoud Abbas se rendre à New York pour assister à l'Assemblée générale. Donc ça pose aussi cette question de légitimité.
Tout à l'heure, Nicolas Taillard, vous rappeliez qu'Emmanuel Macron avait beaucoup tergiversé, qu'il avait pesé ses mots, qu'il s'adressait à plusieurs auditoires en même temps. François-Xavier Bourmeau, la crainte d'Emmanuel Macron, c'était aussi d'importer encore plus le conflit en France. On imagine qu'il a pensé aussi aux conséquences de son discours sur le climat actuel.
Pas importer le conflit en France, c'est son obsession depuis le 7 octobre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne participe pas à la grande marche contre l'antisémitisme qui se déroule le 12 novembre dans la foulée des événements, et qu'il est depuis toujours accusé de pencher en faveur d'un camp ou de l'autre. Là il a tranché, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'effectivement la reconnaissance de l'État palestinien, qui était l'aboutissement d'un processus, devient maintenant le départ de ce processus. Il s'est sans doute rendu compte que les préalables qu'il demandait ne pouvaient pas être atteints. Donc il a inverser la mécanique, et ce faisant, effectivement, il prend le risque d'attiser les tensions et l'antisémitisme qu'on voit en France depuis l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza. On a vu un premier signe, mais qui n'est pas encore très, très significatif, avec la polémique sur les drapeaux palestiniens que le Parti Socialiste a demandé aux maires
d'accrocher sur le
fronton des mairies. Il y a eu 85 mairies qui l'ont accroché. C'est pas énorme si on compare aux 36 000 communes qu'il y a en France. Mais en revanche, c'est le signe que cette question-là est quand même sensible dans une partie de la population et qu'il peut y avoir une polarisation, surtout dans un moment politique, qui est extrêmement marqué par cette question de Gaza.
Alex Billaguer.
Après, il y a quand même un immense paradoxe français, paradoxe de la classe politique française, c'est que toute la classe politique française, dans sa majorité, est pour une solution à deux États, y compris Éric Zemmour, qui, alors, ne se précipitera pas, mais n'exclut pas le principe de la reconnaissance de la Palestine. Et en fait, depuis hier, il y a un feu roulant de la droite et du Rassemblement national sur cette question. On a entendu Marine Le Pen qui dit que ça a été la reconnaissance du Hamastan. Xavier Bertrand aussi, assez véhément, en expliquant que c'est la victoire du Hamas. Bruno Retailleau, alors un peu plus judicieux, en disant ce choix d'Emmanuel Macron n'aurait pas été le mien. Donc on voit déjà qu'il endosse quand même un petit costume déjà un peu au-dessus de la mêlée, parce qu'effectivement, tous estiment que les conditions ne sont pas réunies. Donc il y a quand même, sur ce sujet-là, une instrumentalisation aussi du dossier depuis le début du conflit.
Et des deux côtés, d'ailleurs. D'ailleurs. C'est vrai qu'il y a toute une extrême droite ou une droite extrême qui accuse Emmanuel Macron de donner qui tue sous Hamas, ça c'est l'expression de Marine Le Pen, ou d'abandonner les Français juifs et qui en rajoute, qui en met de l'huile sur le feu justement pour susciter ces tensions. Et puis de l'autre côté, on voit aussi au sein de la gauche radicale, par exemple quelqu'un comme l'eurodéputé Rima Hassan hier, qui ne se réjouissait pas du tout de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui explique que c'est une diversion du pouvoir français justement pour ne pas sanctionner Israël, etc. etc. Donc on voit bien qu'il y a...
Alors que les Insoumis ont érigé la Palestine comme
principale cause... Surtout comme un outil politique à vocation électoraliste. Et de ce point de vue-là, pour finir sur une note un peu moins inquiétante, on peut constater qu'effectivement, 90 mairies qui se pavoisent de drapeaux palestiniens, un pays qui, malgré la flambée effectivement inquiétante des actes antisémites depuis 2 ans, résiste à ces instrumentalisations. C'était le souci, me semble-t-il, aussi du discours d'Emmanuel Macron hier. Même si c'était un discours international qui portait sur une question géopolitique, on voyait bien qu'il y avait des échos qui renvoyaient à la situation intérieure.
Un petit mot, Nicolas.
C'est toujours bon de convoquer l'histoire sur cette question. D'abord la paix, ensuite une récompense avec cette reconnaissance. Ça a été considéré comme un échec par les Israéliens après les accords d'Oslo en 93. D'avoir laissé l'idée de la création d'un État palestinien une fois seulement que la paix aille à son terme, alors que la poignée de main existait à cette époque.
10 secondes, en 1949, lorsque la France reconnaît l'État d'Israël, elle le fait sans fixer de frontières. Donc il y a un préalable.
Et nous verrons dans les jours qui viennent, cette reconnaissance est déclarative ou opérationnelle, comme le prétend l'Élysée aujourd'hui. Merci beaucoup Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Info TV. Merci François-Xavier Bourmont, journaliste politique à l'Opinion, la une de l'Opinion.
C'est sur Donald Trump et Israël, justement, la bande de Gaza, mais j'ai plus la manchette en tête.
C'est pas bien.
C'est déjà bien. Merci Nicolas Théillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Renaud Dely, on se retrouve demain.
Merci Agathe, à demain.
À demain, et vous retrouvez les informés ce soir à 20h avec Victor Maté.